COVID-19 en RDC, le pays enregistre de plus en plus un nombre élevé de personnes guéries et une tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination. À la clôture de la journée de mardi 7 juillet 2020, 77 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés sur un échantillon de 919 personnes testées et 256 nouvelles personnes sont sorties guéries. Quelle analyse faire de l'évolution de la lutte contre le coronavirus en RDC? Comment renforcer les stratégies pour vaincre cette pandémie? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 8 juillet 2020. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Dr Michel Mouvoudi, médecin expert en santé publique. Il est membre de la Riposte contre la COVID-19. Dr Mouvoudi, bonsoir.
Bonsoir, madame, et bonsoir à tous les auditeurs de la radio qui nous suivent en ce moment.
Docteur Vincent Okoyo, député national élu du territoire d'Opala, province de la Tchopo. Il est ancien médecin chef des zones de santé d'Opala. Docteur Okoyo, bonsoir.
Bonsoir, madame, et bonsoir à nos auditeurs et bonsoir aux co-débatteurs.
Nestor Mandiangou, ministre provincial en charge de la santé de la province du Congo central. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir et bonsoir à tout le monde qui est à nous suivre.
Vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Gabriel Alibine Mupenda depuis Goma au Nord Kivu. Malgré le taux élevé des nombres de guéris et moins de nouveaux cas, la lutte doit se poursuivre. Nous saluons les efforts de l'équipe des Ripostes. Par ailleurs, nous invitons la population à respecter les mesures barrières tout en mettant en tête que la maladie est bien là. Merci de nous suivre à Matadi dans la province du Congo central sur la sonde 2.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Lutte contre la COVID-19 en RDC, je l'ai dit, la RDC enregistre de plus en plus un nombre élevé de personnes guéries et moins de nouveaux cas de contamination ces derniers jours. D'après le secrétariat exécutif de la lutte contre cette pandémie, plusieurs stratégies entrent en ligne de compte dans cet exploit. Le point avec vous, Jacques-Yves Molima.
Au dire du professeur Jean-Marie Kayembe, la sensibilisation par les médias et la responsabilisation des zones de santé ont été les stratégies phares dans cette lutte.
La conjugaison de toutes ces stratégies, l'amélioration de l'approche zonale des patients nous a permis de retrouver dans la communauté beaucoup de guéris sans que l'on en soit tous informés.
Par ailleurs, le professeur admet tout de même l'incapacité dans les dépistages.
Le taux, par exemple, de faisabilité des tests. Sommes-nous à la capacité vaccinale de réaliser les tests de dépistage? La réponse est certainement non, sans en rougir.
Mais quant à la question des pics des cas qu'on redoutait tant, est-elle derrière ou devant nous? Le professeur émet encore des réserves.
Nous ne sommes pas encore à même répondre de manière tranchée à cette question. Attention, c'est le pic devant nous, avec nous ou derrière nous, ne nous fasse surtout pas oublier l'essentiel qui reste, les mesures barrières et la prévention.
Et le professeur de souligner.
Regardez d'autres pays notamment qui ont confiné, déconfiné et qui reconfinent. Demeurons vigilants en appliquant davantage la prévention.
D'où son appel à ne pas jouer au triomphalisme.
Merci Jacques-Yves Molima pour ce reportage, signalant que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 7737, dont 7736 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 184 décès, 183 cas confirmés et un cas probable, et 3492 personnes guéries. Maître plutôt, docteur Michel Mouvoudi, je rappelle que vous êtes médecin, expert en santé publique et membre de la Riposte contre la COVID-19, la RDC enregistre de plus en plus un nombre élevé de personnes guéries et moins de nouveaux cas de contamination ces derniers jours. Est-ce qu'on peut parler d'exploits comme on l'a suivi dans notre reportage de tout à l'heure?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Je pense qu'encore une fois de plus, ces résultats dénotent des efforts qui sont fournis par nos vaillants infirmiers, mais aussi par la population au regard de ce que nous demandons sur la lutte contre la COVID-19. Donc ce ne sont pas des faits de hasard, mais là je salue et reconnais les efforts du personnel de santé engagé dans cette riposte. Mais encore une fois de plus, comme je l'avais mentionné, il faut qu'on reste un peu très prudent. Lorsque nous avons de tels chiffres, c'est bien en avance, on a des guéris, on a des cas positifs sur des grands échantillons qui sont un peu moindres, mais nous devons comprendre que la pandémie augmente. Chaque jour on a des cas, donc il faut rester très vigilant. Mais maintenant, je voudrais quand même préciser que sur la question de guérison, comme vous l'avez remarqué, il y a eu deux événements très importants sur lesquels il faut mentionner un certain nombre de points. Le premier événement, madame, qu'en fait, comme je l'avais mentionné, il y a eu déjà beaucoup de cas qui étaient soignés à l'époque. Donc on avait eu beaucoup de malades qui avaient fini leur traitement. Mais à l'époque, il faut avouer que notre système de contrôle, notre système de dépistage était très faible. Nous sommes en train justement de monter ces capacités, comme le professeur Kayembe venait de le dire. Mais en fait, grâce à ces efforts de décentralisation du diagnostic, grâce aussi à la multiplication de points de dépistage, on a pu contrôler beaucoup de malades qui avaient fini leur traitement. Et donc on a eu beaucoup de cas qui étaient contrôlés et donc qu'on a constaté négatifs. Ça c'est un premier élément qui est très bien. Ça veut dire qu'en fait il y a un effort important que nous avons fait sur le déploiement des outils diagnostiques et des outils de contrôle. Le deuxième élément, il faut aussi quand même le signaler, c'est qu'en fait, au départ, là, quand on dit qu'une personne est guérie, on devait répondre à une définition clinique qui disait que la personne doit d'abord avoir une rémission totale des signes cliniques, après subir un premier contrôle qui devient négatif et attendre un deuxième contrôle négatif. Donc ça, au début de deux contrôles consécutifs négatifs, qu'on pouvait dire que la personne est justement guérie. Mais avec les définitions, les échanges avec les autres experts, on a retenu la définition qui est un peu la plus courante dans d'autres pays, c'est celle de garder un seul test négatif. Surtout que lorsque vous aviez déjà un contrôle négatif, c'est très rare, rarissime même d'avoir un deuxième contrôle positif. Donc, avec ces deux éléments, vous comprenez que on a eu beaucoup de cas guéris. Sans oublier le troisième point, madame, c'est que la COVID-19, n'oubliez jamais, à plus de 80%, c'est une maladie qui peut guérir en absence d'hospitalisation. Et ça, c'est très important. Maintenant, je suis tout à fait d'accord que aujourd'hui, on a des cas de contamination qui commencent à diminuer.
Justement, comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est parce que la population a pris conscience, parce que la population respecte les gestes barrières, qu'on a ce faible taux quand même de contamination?
Il faut dire qu'il y a deux éléments dedans, madame Céline. Le premier élément, c'est que c'est vrai. Moi, je suis en train de lire un peu les rapports sur la sensibilisation. Je me rends compte quand même qu'on commence à aller vers des bonnes pratiques en termes d'acceptation de la population. Vous voyez, on n'a plus encore des discours du genre « la maladie n'existe pas », on n'a plus beaucoup de résistances, on n'a plus des discours du genre « oui, c'est une maladie inventée pour gagner de l'argent », on n'a plus des discours du genre « c'est une maladie qui ne tue pas le noir ». Il faut quand même dire qu'entre le début de l'épidémie et maintenant, on sent quand même qu'une la population commence à prendre un peu les choses, excusez-moi le terme, les choses au sérieux. On sent vraiment une implication de la population et on a totalement revu notre stratégie de communication pour essayer d'identifier les poches des personnes qui résistent et comprendre pourquoi. Ça, c'est un élément important. Un deuxième élément, il faut quand même dire que, étant donné qu'on a multiplié des sites de prélèvement où les gens vont se faire dépister de manière volontaire, notamment par exemple au stade, vous voyez qu'il y a beaucoup de cas qui sont apparemment bien, mais qui vont pour se faire dépister. Donc du coup, on commence à avoir beaucoup d'échantillons, et en ayant beaucoup d'échantillons dans ces échantillons-là, on n'a presque pas beaucoup de cas positifs. Donc vous comprenez que le dénominateur devient très grand, parce qu'en fait, on multiplie l'accès au dépistage, et donc à ce titre-là, il est possible que vous voyez que les cas positifs, jadis qui étaient concentrés principalement sur des suspects, commencent aussi à diminuer. Donc, mais, comme on le dit, restons prudents, travaillons encore davantage pour voir la déplétion continuer. Et encore une fois de plus, ça ne sera que le fruit des efforts conjugués de manière collective.
Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur le pic tant redouté ou attendu. Est-ce qu'on a atteint ou pas ce pic-là?
Alors, encore une fois de plus, madame Kémy, la question de pic, comme je l'ai déjà mentionné, vous devez savoir d'abord premièrement que le pic épidémique, vous pouvez ou ne pas l'atteindre, hein. Donc il existe
qu'on appelle le pic épidémique, mais il existe aussi ce qu'on appelle des effets en plateau. Ça veut dire une épidémie monte, puis elle se maintient en plateau, et puis après, à un moment donné, elle va descendre. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, le pic épidémique, ce n'est qu'une prévision. Encore une fois de plus, c'est un peu une prévision de la météo. Vous pouvez te prédire quand est-ce que ça va venir. Rappelez-vous que quand on était au mois de mai, on parlait d'un pic épidémique au mois de juillet. Bon, juillet est en train de se terminer. En tout cas, à mon humble avis, lorsque je regarde les chiffres et je projette, nous sommes encore loin d'atteindre ce pic épidémique. On n'a pas encore atteint. Donc, on a encore sur des prévisions, mais je pense que l'essentiel pour le moment, c'est pas beaucoup de nous focaliser sur quand est-ce qu'on atteint les pics ou quand est-ce qu'on l'atteint pas. Augmentons les capacités de dépistage et de diagnostic d'abord pour essayer d'avoir une bonne couverture, d'une part, et d'autre part, essayons de faire en sorte que la prévention soit le socle dans la population pour éviter la propagation. À ce titre-là, je pense que la question du pic épidémique devient fait secondaire. Mais je pense que, pour le moment, il est très difficile de dire de manière exacte quand est-ce qu'on peut atteindre ce pic. Voyons d'abord déjà les efforts que nous faisons sur l'augmentation du dépistage et de la couverture des services diagnostiques au niveau de la population.
Docteur Vincent Okoyo, je rappelle que vous êtes député national élu du territoire d'Opala, province de la Tchopo. Vous êtes ancien médecin chef des zones de santé d'Opala. Quelle analyse vous faites de l'évolution de la lutte contre le coronavirus en RDC?
Bon, cette analyse s'inscrit dans la suite de tout ce que nous avons déjà eu à discuter dans cette émission. Actuellement, vous notez que le ralentissement des nouvelles contaminations est notable, en même temps que le nombre de guéris augmente sensiblement. Docteur Michel vient de vous donner à peu près quelques éléments essentiels. C'est que d'un côté, il y a eu le renforcement, il faut qu'on se le dise, de capacités diagnostiques, avec le nombre de laboratoires qui ont été installés à travers le pays et dans la ville de Kinshasa essentiellement. Je crois qu'on est au-delà de 6 ou 7 hôpitaux qui sont capables de diagnostiquer aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut noter, comme Dr Michel l'a dit, une adhésion de plus en plus forte de la population à l'idée que la maladie est là, et à l'idée que les gestes barrières doivent être observés. Parce que de plus en plus, avec le nombre de décès, la population se rend compte qu'à côté d'elle, il y a quand même des personnes dont la vie est fauchée à cause de cette maladie. Et la sensibilisation, il faut l'avouer aussi, la sensibilisation de la population à travers les messages dans les médias a eu des effets positifs, au point que aujourd'hui, de moins en moins, on note la résistance et la négation de la maladie, le déni de la maladie au sein de notre société. Tous ces éléments ont participé quelque part à éviter une propagation trop rapide de la maladie, mais aussi à amener la population à se faire dépister et éventuellement se faire prendre en charge par le personnel soignant. Je crois que de ce point de vue, nos analyses sont presque unanimes. Mais si vous voulez, madame, j'aimerais aussi faire part de certaines observations qui sont tout à fait réelles et particulières pour notre pays. C'est que la maladie ayant commencé dans d'autres continents, elle atteint l'Afrique et la République démocratique du Congo à travers les grandes villes. Donc, les villes sont les centres des épidémies qui pouvaient se propager à travers les milieux ruraux, mais nous avons été avisés et les mesures prises par le chef de l'État et exécutées par le gouvernement ont eu un effet positif dans ce sens que la restriction des mouvements entre les villes et la campagne a aidé à contenir jusque-là, en tout cas l'épidémie, en milieu urbain. Deuxièmement, je l'ai dit, les mouvements de population ont été réduits précocement. Avec la limitation des mouvements, la restriction des libertés individuelles et le contrôle au niveau des barrières, cela a permis à ce que la population puisse rester cantonnée pratiquement dans les milieux urbains et très peu de mouvements vers les milieux ruraux. Mais quant à ce qui concerne les pics, comme l'a dit le docteur Jean-Marie Kayembe, je crois que nous devons continuer à rester prudents. Parce qu'à l'absence d'une immunisation collective
et à l'absence de la vaccination, nous ne pouvons pas affirmer comme ça que le pic a été atteint ou que nous sommes à l'abri d'une vague que je pourrais appeler une deuxième vague et qui, elle, peut être plus importante. On ne peut pas l'affirmer. Donc, jusque-là, nous notons que, et coup de chapeau au personnel soignant qui s'est jeté vraiment à l'eau, même au moment où les conditions n'étaient pas encore suffisamment réunies. Qui s'est jeté à l'eau pour prendre en charge nos compatriotes et qui semble rassurer toute la nation par le fait que on observe une stabilité et même une diminution des principaux indicateurs de suivi de l'épidémie.
Docteur Vincent Okoyo, il y a Henri Kasongo qui nous écrit depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Il se demande comment expliquer cette montée des malades guéris au moment où partout on déplore le non-respect des mesures barrières. Est-ce que ce n'est pas une contradiction ou une fuite en avant et surtout que les députés ont déjà dit qu'ils ne prolongeront plus pour la septième fois l'état d'urgence?
Bon, ce n'est pas une contradiction. Je crois que aux compatriotes, il faut répéter ce que Dr Michel a dit. La première chose, c'est que il y a eu une augmentation des capacités diagnostiques, mais aussi des capacités de contrôle des cas, c'est-à-dire les cas qui sont sous traitement, les cas symptomatiques que l'on peut considérer comme modérés ou graves, qui sont sous traitement pour être déclarés guéris. Sont obligés de subir un examen de contrôle, un examen paraclinique de contrôle au laboratoire, c'est-à-dire après la prise du traitement, les prélèvements sont faits et on vérifie si le virus est encore actif dans le corps du patient. Et à ce point-là, le fait que les laboratoires disséminés à travers le pays, je peux rapidement vous citer, madame, quelques provinces, et ça avec une légère satisfaction, à Matadi, à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Bunia, et ici à Kinshasa, nous pouvons citer l'hôpital Ngaliema, Saint-Joseph, Monkole, cliniques universitaires, et bien d'autres hôpitaux où les diagnostics se pratiquent. Et donc la capacité de contrôler les malades suivis et voir si le virus est encore actif, et là lorsque les tests s'avèrent négatifs, on doit déclarer le malade guéri. Deuxième facteur, on a réduit le nombre de tests de contrôle. Au lieu de deux tests successifs qui soient négatifs, un premier test de contrôle négatif signe déjà la guérison du malade. Et ça, par ce fait-là, rapidement, le nombre de malades déclarés scientifiquement guéris a augmenté parce que le premier test de contrôle s'est avéré négatif. Et ça réduit aussi un peu le coût de centres de contrôle et de diagnostic, parce que il fallait passer par un deuxième examen, mais ce deuxième examen est éliminé dès que le premier contrôle s'avère négatif.
Donc, merci.
Il n'y a pas de contradiction à cet effet.
Merci, docteur Vincent Okoyo. Nestor Roman Diangou, je rappelle que vous êtes ministre provincial en charge de la santé de la province du Congo central. Le Congo central vient en deuxième position des provinces touchées par la pandémie. Comment cette pandémie évolue dans votre province, monsieur Nestor Roman Diangou?
Merci beaucoup, madame. Je viens de suivre les intervenants. Par rapport à la question qui est posée, dans tous les pays, aujourd'hui, il y a des efforts. C'est très positif. Le nombre de guéris augmente. Ça ne peut enchanter que tous les Congolais. On ne peut même pas se poser la question de savoir pourquoi ça diminue. On doit être content pour ça diminuer. Et comme ça diminue, c'est que la prise en charge s'est faite de manière programmée et de manière contrôlée, pour que nous puissions arriver au bon résultat. Dans le Congo central, ces effets sont très bien ressentis. Nous sommes aujourd'hui à 348 cas. C'est le cumul pour le mois d'avril que nous avons enregistré les premiers cas. Et nous avons aujourd'hui 48 personnes déclarées guéries. Et ceux qui sont en fin de traitement, qui attendent les résultats de contrôle, sont à 132. Donc quand vous prenez ceux-là qu'on attend les résultats et ceux qui sont guéris, nous sommes à 215. Et quand vous prenez ces 215 à soustraire au nombre de cas, nous sommes à plus ou moins 95 cas malades, ceux qui sont malades qui sont en train d'être suivis. Ça ne peut que nous enchanter, et nous sommes contents parce que c'est l'effort de tout le monde.
Ça veut dire que la prise en charge des malades se passe très bien dans la province du Congo central. Il n'y a pas à s'inquiéter.
C'est positif parce que les résultats sont là. On évalue une action en fonction des résultats obtenus. Et tel qu'il y a de plus en plus de gens qui sont guéris, nous disons que la prise en charge est là. La prise en charge est là parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes indépendants par rapport au test. Autrefois, quand les tests partaient à Kinshasa, ça prenait un peu de temps. Et à ce moment-là, les gens qui étaient prélevés contaminés. Et maintenant que nous avons un laboratoire qui fait le travail sur place, aussitôt prélèvement fait et aussitôt contrôle fait, en moins de 2-3 jours, les résultats sont sortis. À ce moment-là, les équipes de réponse entrent sur le terrain pour remonter les cas de contact. Ça, c'est un effort. Si tout déclaré, on sait que tel monsieur, telle madame, telle dame est déclaré positif et les équipes suivent le cas contact. Et si ce cas de contact se suit régulièrement, je pense qu'on doit arriver demain à de très bons résultats.
En ce temps, monsieur le ministre, on apprend que le personnel soignant est dans la rue pour réclamer les arriérés des 2 mois de salaire.
Non. Est-ce qu'il y a des salaires qui étaient fixés par rapport aux gens qui travaillent dans la riposte? Je ne pense pas. Mais je sais que tout le monde qui travaille peut avoir une prime. C'est comme tel qu'il faut prendre les choses. Et nous ne sommes pas en dehors de cette procédure. Écoutez, même à Kinshasa, j'ai appris que les gens se révoltaient. Ça, on dit non. Nous devons d'abord comprendre de quoi il s'agit. Tout c'est un problème d'information. On dit où c'était dans une zone de santé. Les gens, je ne sais pas piqué par quelle mouche, voulaient bien marcher pour dire nous avons besoin de notre salaire, on donne. Mais qui a refusé qu'on puisse motiver les personnels soignants ou d'autres prestataires qui sont sur le terrain? Au contraire, nous les félicitons. Prestataires scientifiques, donc en clinique, ou ceux qui sont dans la communauté pour assurer la sensibilisation au niveau communautaire. Tout le monde est apprécié parce que le travail s'est fait. Mais quant à ce volet-là, on doit donner le temps à l'autorité de planifier les choses. Nous, nous sommes dans notre maison où 5 francs, 10 francs entrent et chacun fait ce qu'il veut de ça. Non. Au niveau d'une province, c'est une concertation. Nous avons tout un comité de réponse qui travaille par rapport à ça. Donc, la communauté doit donner du temps à ce comité-là.
Combien de temps, monsieur le ministre? Combien de temps? 2 mois, c'est quand même beaucoup pour des gens qui risquent leur vie, rester 2 mois sans être motivés. Il y a quand même un petit souci.
Non, il ne faut pas dire qu'ils ne sont jamais motivés. Les relais communautaires savent que partout il y a du travail, la province fait toujours des gestes, moindres soit-il, on intervient. Mais au moment où nous parlons, nous avons eu un appui du niveau national. Est-ce que c'est arrivé quand? C'est arrivé la semaine passée, pratiquement, que toutes les procédures liées au transfert d'argent étaient effectuées. Et maintenant, c'est l'État. Cette semaine ici, la province se mobilise pour mettre de l'ordre dans cette boîte-là. Donc, il ne faut pas que les gens allument le feu inutilement. Personnellement, moi, hier, j'étais dans la zone de 30 où ces acteurs-là s'étaient soulevés pour réclamer ça, mais je les ai appelés pour dire, mais donnez-nous le temps, on va revenir à vous, parce qu'on sait que vous battez un travail de qualité de titan par rapport à ça. Et nous tous, nous devons être contents, et aussi, ce n'est pas le moment d'aller à de tels genres d'histoire, nous sommes dans un état d'urgence. Parce que vous, le secteur santé, madame, je dois vous le dire, que c'est parmi les mieux organisés dans notre pays. Et tous ces relais communautaires, nous venons à vous signifier hier que nous savons comment nous travaillons. Ils doivent être calmes et la situation sera réglée et la province est consciente de cette situation-là. Notre but, c'est de lutter contre cet ennemi commun à nous tous. Je dis que je salue cette communauté-là aujourd'hui qui pose un problème connu et qui n'est pas oublié. Et je lui demande d'attendre. D'ici là, la solution sera trouvée.
Merci, monsieur le ministre. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de prendre cette réaction qui nous vient de Kolwezi pour Dr. Michel Mouboudi.
Alain Kadiman, depuis la ville de Kolwezi. Nous avons remarqué les cas de guérison à grande échelle. Dieu merci. Nous, population, on se demande quels sont les mécanismes trouvés pour ce genre de guérison à grande échelle. Ou c'est après la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo d'ouvrir les églises qu'ils ont commencé à guérir, alors qu'on a décrié la non-observance des mesures barrières acquises, comme partout dans toutes les provinces, ce qui fait croire à la population au véritable doute de la dite pandémie. Certains d'entre nous pensent que c'est peut-être après la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo qu'ils ont trouvé la guérison. Nous attendons alors qu'ils nous disent quels sont les remèdes qu'ils ont pu trouver pour réveiller cette guérison dite à grande échelle. Merci.
Je pense que j'ai compris la question, Madame Tilly, mais pas très bien, mais je vais essayer de répondre par rapport à ce que j'ai capté, mais aidez-moi si je suis à côté. En fait, il faut juste faire la part des choses entre la guérison et la contamination. Je pense que pour la guérison, je l'ai bien expliqué, et le docteur Vincent est revenu là-dessus. On a la sensibilisation, on se rend compte que les gens commencent à comprendre ce qu'il faut faire, prennent leurs médicaments et tout, suivent le protocole que nous avons composé de la chloroquine, la vitro, la vitamine C, le zinc. D'une part. D'autre part, on a déchargé à partir des contrôles qu'on a dû faire sur l'ensemble des cas qui avaient déjà fini leur traitement. Et troisièmement, je l'ai dit, c'est la définition de cas guéri. Donc ça, c'est le premier élément. Maintenant, je pense que l'autre côté, on ne dit pas que parce que les gens sont guéris, il faudra maintenant relâcher. Non, il faudra continuer à faire deux choses. La première des choses, les gestes barrières, la prévention. Et même quand on va devoir déconfiner partiellement ou totalement, je crois qu'on devrait être encore très rigoureux sur les mesures barrières. Vous voyez ce qui se passe en Espagne, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Le déconfinement ne doit pas dire on relâche. Et on l'a dit encore une fois de plus, il ne l'a pas passé. Donc c'est très important qu'on observe ça. D'autres éléments que je voulais dire...
Docteur Michel, cet auditeur se demande, on observe une diminution des contaminations alors qu'on décrit chaque jour la non-observance des mesures barrières par la population.
Ah, oui, d'accord, je n'ai pas bien capté. Non, je pense que il peut observer. L'observation que lui est en train de faire, c'est une observation plus globale. Ça, c'est la première des choses. Mais je crois que l'élément scientifique qui nous permet de dire que à certains endroits, on a quand même renforcé les mesures barrières, justement, c'est cette diminution du nombre de contaminations. Mais encore une fois de plus, madame, nous restons prudents, parce que le nombre de contaminations que nous avons, c'est sur des échantillons prélevés. On ne sait pas ce qui se passe là où on n'a pas encore prélevé. Donc on reste très prudents. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, ce serait une bonne chose justement lorsque nous arrivons à de tels constats, mais il faut les maintenir et aller de l'avant sur l'ensemble du pays, parce que il est vrai qu'aujourd'hui nous avons encore des provinces silencieuses dans lesquelles on ne sait pas justement ce qui se passe. Donc je crois que il y a quand même des faits qui montrent que la population, les équipes de l'IFOST font des efforts, mais je pense que ces efforts, on peut encore les tripler, on peut encore aller plus loin si vous regardez la dynamique de la pandémie d'une part, et d'autre part je pense que nous avons encore des cas qui arrivent. Si vous regardez les statistiques depuis la semaine passée, on a toujours au moins un nouveau cas de contamination qui arrive, même si globalement on voit une diminution par rapport à hier. Donc c'est comme ça qu'on appelle la population à la vigilance et à continuer de respecter les mesures barrières sur l'ensemble du territoire congolais.
Et docteur Vincent Okoye, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Je réponds au nom de Clément Kalamba. Je vous appelle depuis la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Je pense que le ministère de la Santé dans notre pays et le secrétariat technique de la Riposte sont bien partis pour vaincre cette pandémie à COVID-19 au vu des derniers résultats enregistrés dans notre pays, notamment dans la croissance des cas de guérison. Néanmoins, je crains que la situation puisse s'empirer au vu de la grève que tous les personnels médicaux de notre pays, notamment les médecins, sont en train d'annoncer. C'est ainsi que je me pose les deux petites questions. La première est celle de savoir comment les gouvernements de notre pays et les peuples congolais en général pouvons espérer vaincre cette pandémie si les médecins qui exposent leur vie en ripostant contre cette maladie n'arrivent pas à toucher même un seul franc depuis le début de cette pandémie. Et en plus, pourquoi cet argent qui est décaissé dans les trésors publics pour leur compte n'arrive pas à la destination?
Docteur Vincent Okoye.
Oui, merci beaucoup à Clément Kalamba, à partir de Lubumbashi. D'abord, je dois affirmer cette question de la motivation et de la rémunération du personnel de santé n'est pas une question à négocier, n'est pas une demande gentille que nous devons adresser à l'État. Donc c'est une obligation du gouvernement de payer et de motiver le personnel soignant qui prend suffisamment de risques pour sa vie, pour la vie d'un chacun, en se jetant dans le travail, en répondant à leurs devoirs d'État, et parfois dans des conditions peu sécurisantes. Mais la vérité, c'est que nous devons faire pression au gouvernement pour que ce personnel soit payé et motivé. Les spectacles auxquels nous avons assisté, madame, est tout à fait scandaleux. Je ne sais pas s'il a eu lieu dans un autre pays au monde, qu'en pleine épidémie, ceux-là même qui sont engagés dans la riposte, ceux-là qui exposent leur vie, ceux-là qui honorent la mère patrie en soignant les compatriotes, puissent venir réclamer 2-3 mois de salaire parce qu'ils n'ont pas été payés. Et la raison, elle ne doit pas exister. Moi, je l'ai dit ainsi. Il ne doit pas exister de raison pour que ceux-là ne soient pas payés. Ça ne se négocie pas, c'est une obligation du gouvernement, c'est une obligation de l'État et même de la nation tout entière envers ces dignes fils. Pour notre compatriote Clément Kalamba, je dis tout simplement, l'inquiétude est légitime. Comment allons-nous vaincre l'épidémie, la pandémie, si les militaires, nous sommes en état d'urgence, état d'urgence sanitaire, ça signifie les militaires qui sont au front, ce sont les médecins, ce sont les infirmiers, ce sont les brancardiers, ce sont les ambulanciers, qui doivent être suffisants, les infirmiers, tous les aides-soignants, qui doivent être bien motivés, en tout cas, ce qui a été prévu doit leur parvenir. Ça ne se discute pas, c'est une obligation du gouvernement et de l'État. Et j'aimerais quand même...
Vous avez interpellé le ministre de la Santé il y a quelque temps. C'était quoi sa réponse par rapport à toutes ces revendications?
Bon, il y a beaucoup de réponses. Nous l'avons... Le ministre de la Santé a été reçu à la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé a été reçu à la commission de suivi des mesures de suivi et évaluation des mesures prises par le gouvernement. Il faut dire que en termes de gestion des fonds, madame, il y a des choses qui doivent être améliorées parce que nous avons au sein de la commission de suivi et de l'évaluation des mesures de riposte, nous avons noté que il y avait une certaine incoordination qui ne permettait pas à ce que les actions en termes de rémunération qui doivent être posées puissent être faites à temps. Et ça, j'espère qu'ils ont pris en compte les observations que nous avons formulées au gouvernement par le Premier ministre. Ils doivent en tenir compte pour que la solution soit trouvée. En tout cas, il n'y a pas à négocier là-dessus. Nous avons la commission, je crois, socioculturelle et notre commission de suivi et évaluation des mesures de la riposte. Nous avons été suffisamment clairs pour que ces questions de rémunération ne puissent pas revenir sur la table.
Merci.
Le personnel doit être correctement payé, motivé. En tout cas, ce qui est prévu pour leur motivation doit leur parvenir.
Monsieur le ministre provincial Nestor Roman Djangouya, aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu.
Maître Josué Hassani Kisourou, activiste du mouvement citoyen Rien sans le peuple à Bukavu, au sud Kivu. Les efforts déjà réalisés par les personnels soignants dans le cadre de la lutte contre cette pandémie à coronavirus méritent un encouragement. Cependant, vu la moitié d'éradication déjà réalisée, il serait utile de déconfiner les provinces tout en respectant scrupuleusement les mesures barrières. Il y a également une forte sensibilisation d'apprendre aux gens qui vivent avec Covid comme toute autre maladie, car personne ne sait ni le jour ni l'heure que cette pandémie finira.
Monsieur le ministre, comment vous répondez à cet auditeur qui estime que vu les résultats qu'on a aujourd'hui, il serait utile de déconfiner les provinces tout en respectant scrupuleusement les mesures barrières?
Merci beaucoup madame, je suis très content de la question, mais je voudrais directement dire à celui qui a posé la question qu'il a dit quelque chose de bien. Personne ne sait, ni le jour, ni l'heure où la maladie va partir. Ça c'est déjà une bonne chose. Cela veut dire que nous devrons vivre avec beaucoup de précautions. Le Congo central, en matière de confinement, ne parle pas de ça. Parce que nous avons confiné la ville de Matadi pour 3 jours. Et cette histoire était terminée. Pour le moment, c'est la surveillance communautaire qui se fait avec la présence de quelques points de checking à gauche et à droite. Notamment, nous sommes restés stationnaires au niveau de l'Ipendi parce qu'il faut être prudent et nous avons des points de checking à Matadi même pour pouvoir amener la population à comprendre que nous continuons à vivre avec la maladie et que nous devrons être très, très, très prudents. Donc, on ne peut pas se précipiter. Moi, je suis content des différentes séquences qu'on a essayé de prolonger l'état d'urgence. C'est pour que nous tous nous puissions prendre conscience. C'est important. Parce qu'on peut se leurrer. On se réveille un matin pour dire non, il n'y a plus de maladie. Non, nous devrons être très, très, très prudents par rapport à cela. Donc, par rapport au déconfinement, moi, je ne peux parler que de la province du Congo central. Et je suppose ici que selon l'ampleur du problème à gauche et à droite, chaque province doit prendre des mesures qui s'imposent. Kinshasa n'est pas le Congo central, le Kwilu n'est pas le Congo central, donc c'est chaque province qui doit voir, apprécier. Pour la province du Congo central a déjà décrié cette situation, mais alors en disant que nous sommes dans une province stratégique. Donc, au lieu de confiner complètement, il était difficile parce qu'il y a des commerces qui viennent à Matadi pour telle ou telle autre activité économique. Donc, aujourd'hui, nous vivons déconfinés. C'est comme tel qu'il faut le dire. Mais, nous sommes présents sur le terrain pour faire appel aux prestataires, pour faire appel aux membres de la communauté de jouer pour que les mesures barrières soient continues, soient observées à jamais. Nous ne pouvons pas lâcher par rapport à cela.
Merci, Monsieur le ministre provincial. Il y a Dr Benjamin Pengue, auteur d'un protocole contre la COVID-19, qui nous écrit, il dit ceci, s'agissant des stratégies actuelles, l'équipe de la riposte doit renforcer la bonne communication, présenter le problème comme tel à la population pour une bonne adhésion de celle-ci. En outre, l'état d'urgence doit être maintenu tout en proposant le déconfinement de certains secteurs et la levée progressive de certaines mesures qui, à ce jour, n'ont pas raison d'être maintenu. Docteur Michel Mouboudi, comment renforcer les stratégies pour vaincre cette pandémie?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Désolé, ma ligne s'abîme, je vous capte presque plus, mais j'essaye de comprendre ce que vous voulez dire.
Alors,
je crois que nous avons un plan de renforcement des stratégies, hein, Madame. Nous avons commencé la lutte depuis le 10 mars. Et vous voyez visiblement que malgré les défis de terrain, nous sommes vraiment en train de nous améliorer en intégrant les feedbacks des uns des autres. Donc on n'est pas dans un système figé, on a des guérisons de plus en plus, on a décentralisé, multiplié les sites de diagnostic, on a un protocole qui est suivi, on a essayé de diminuer sensiblement la résistance communautaire, donc on a de plus en plus d'adhésion de la population. On revisite aussi nos stratégies régulièrement. Ce qui est vrai, c'est ce que j'ai dit toujours, nous avons besoin de l'implication de tous et principalement de l'implication de la communauté. Moi, je pense qu'avec la dynamique actuelle, avec l'implication des uns des autres et principalement l'adhésion de la population, nous allons arriver à réussir cette pandémie. La RDC, rappelez-vous, a quand même une expérience dans la gestion des épidémies, des pandémies. On a géré quand même beaucoup de fléaux sanitaires dans ce pays et aidé même d'autres pays africains. Donc on doit vraiment se faire confiance collectivement. Pour moi, ça c'est le premier point. Et le deuxième point...
Allez-y rapidement parce que nous sommes presque à la fin de l'émission.
Pardon?
Tu dis allez-y rapidement, docteur, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission.
Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que ça c'est un conseil à tout le monde. Il faut dépolitiser le débat dans la santé. Je crois que nous sommes dans un secteur très sensible qui touche à la vie des personnes, il faut éviter justement d'apporter des différents politiques sur la santé. Là maintenant, je crois qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin d'éviter que les gens firment parfois des choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Il est important maintenant qu'on se mette ensemble, qu'on travaille pour la solution de cette pandémie. Et je crois qu'à chaque fois qu'on aura l'occasion de recevoir les feedbacks des uns des autres, pour nous c'est une occasion d'améliorer et je pense que nous devons aller dans ce sens. Les expériences dans d'autres pays montrent que la pandémie n'est pas très facile à gérer, mais nous sommes quand même sous des bonnes voies en République démocratique du Congo, moyennant justement tous les observations que nos auditeurs venaient de dire.
Merci, docteur Michel Mouboudi. On va considérer cela comme votre conclusion. Docteur Vincent Okoyo, qu'est-ce que vous vous proposez pour renforcer les stratégies pour vaincre cette pandémie en RDC?
Il y a quelque chose qui ressort de tout ce que les intervenants ont dit. Les gestes barrières doivent être suivis La population doit adhérer à toutes ces mesures qui permettent à ce que nous puissions contenir l'épidémie jusque-là et que nous puissions nous trouver notre voie dans ce qui se passe à travers le monde. Deuxième chose que je vais conseiller, c'est le renforcement du système de santé, madame. Et cela a montré que, l'expérience de 3 mois a montré que lorsque le système de santé est renforcé, les soins ou la sensibilisation ou la prise en charge est rapprochée de la population, la RDC est capable de contenir un événement comme cette pandémie à coronavirus et d'essayer de rassurer la population. Donc nous devons faire en sorte, et ceux qui gèrent la situation notamment, doivent faire en sorte que nous sortions de cette pandémie avec un système de santé plus renforcé qu'avant, plus confiant qu'avant, parce qu'elle aura été mise en confiance par les moyens, la formation, ainsi de suite, et qui permettra à ce que la population trouve des voies et moyens de se faire prendre d'une prise en charge adéquate, même lorsque la maladie peut se répandre davantage dans la population. Je voulais quand même recommander que, compte tenu du caractère tout à fait atypique de l'épidémie chez nous, les scientifiques doivent s'adonner à une certaine recherche qui doit déterminer des facteurs environnementaux, des facteurs biologiques et surtout microbiologiques, et les facteurs anthropologiques qui justifient le fait que la pandémie chez nous n'a pas la même agressivité que ce que nous avons connu en Europe. Donc une recherche scientifique doit être appuyée dans le sens de comprendre le phénomène et d'expliquer, notamment à la population, qu'est-ce qui a fait que chez nous, nous avons eu la chance ou le bénéfice de ne pas connaître une épidémie aussi agressive que celle que nous avons connue sur d'autres continents.
Merci, docteur Vincent Okoyo Nestor Mandiangou, ministre provincial en charge de la santé de la province du Congo central. Vos propositions pour renforcer les stratégies afin de vaincre cette pandémie en RDC.
Ok, je vais commencer ici par la communication.
Soyez bref, monsieur le ministre. Je suis bref.
La communication doit rester. Il faut que les communicateurs se mettent en place pour vulgariser les gestes barrières. On ne peut pas arrêter parce que les grands lubrifiants. Si on continue à communiquer, le retardataire, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, les choses ont avancé. Ceux qui ne comprenaient pas ont adhéré. Donc on doit renforcer. De deux, il faut qu'on assure la protection des prestataires. Parce que c'est là le secret. Quand les prestataires sont protégés, ils vont se donner pour la prise en charge des cas. Donc on doit continuer à leur doter des équipements individuels de protection. C'est important. De trois, il faut qu'on arrive à conserver certaines mesures importantes. Même si aujourd'hui l'état d'urgence est levé, il faut par exemple qu'on surveille, qu'on soit regardant par rapport à l'organisation des deuils, le mouvement des masses, les activités des masses. Même chose, par exemple, pour la reprise d'un match de football. Attention, on ne peut pas suivre ce qui se passe dans les pays occidentaux. Nous devrons être prudents par rapport à ça. Et de trois, la motivation des prestataires doit être là. Et enfin, au niveau des laboratoires, comme on est devenu indépendant par rapport aux tests, il ne faut pas qu'il y ait des ruptures de cartouches pour que les gens qui sont suspectés puissent être tester à temps et pour que la lutte puisse continuer.
Merci.
Voilà pour moi les stratégies importantes qu'il faut observer pour la suite de la lutte.
Merci Nestor Mandiangou, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer, Guy Maté, Donna Madimba, Axel Goncho. Merci à Polydor Basunga qui est à la mise en onde, présentation et coordination Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Prenez soin de vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.